Pascal Markovitch, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avocat, membre du comité directeur du CRIF. Vous êtes un spécialiste du boycott d'Israël et des problèmes de discrimination et vous participez à plusieurs groupes internationaux de professionnels sur de juristes sur ce sujet. Donc l'objectif essentiel de notre rencontre est de parler de ce phénomène qu'est le BDS, boycott des investissements sanctions. Certains pensent que les objectifs du BDS sont uniquement d'empêcher la vente de produits qui ont été fabriqués en dehors de la ligne d'armistice de 1949, celle qu'on appelle la ligne verte, dans ces territoires qu'il faut appeler comment d'ailleurs ?
Alors pour moi, on ne doit pas les appeler, comme on l'entend communément parler en France, dans les médias, de colonies. Si on veut rester neutre, ce qui est d'ailleurs la politique française en la matière depuis très longtemps, on doit parler de territoires disputés ou contestés entre les Palestiniens et les Israéliens. Si on veut être plutôt pro-israélien, on dira que ce sont des territoires de Judée-Samarie, des villes ou des villages. Sinon, si on est pro-palestinien, ben on dira que ce sont des colonies, ce sont des implantations éventuellement. Mais moi, si je veux rester neutre, je dis des cités qui font partie d'un territoire disputé entre les parties et qui sont contestées par les uns ou les autres. Ça, c'est la façon neutre de parler.
Alors, est-ce que l'on peut dire que le BDS, dont vous allez nous rappeler comment il a été, quand il a été créé, est-ce qu'on peut dire que c'est à cela que se limite son action ?
Non, alors en fait, le BDS, la campagne BDS, a été créée en juillet 2005, un an après un avis de la Cour internationale de justice, qui avait décidé que la barrière de sécurité, qu'on appelle d'ailleurs dans les médias un mur, ce qui n'est pas le cas, sur la grande majorité de sa superficie, donc avait décidé qu'il fallait faire une campagne mondiale pour boycotter tout ce qui vient d'Israël, pour de nombreuses raisons, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure. Il faut savoir que le boycott d'Israël existe déjà depuis 1950, puisqu'il y avait à Damas le bureau du boycott, qui avait été établi par la Ligue arabe, et qu'il a été recréé, si je puis dire, en 2005, afin que ce boycott puisse être plus efficace, notamment d'une façon économique, contre les produits qui proviennent d'Israël, ou de ce que j'appelais tout à l'heure qui proviennent des territoires qui sont contestés. Ça peut être également un boycott universitaire, un boycott culturel contre tout ce qui provient de la culture, les films israéliens, les festivals israéliens, contre la littérature israélienne.
C'est-à-dire que
là on voit
une extension finalement de ce boycott, de cette demande de boycott à des activités qui ne sont pas uniquement en provenance de ces territoires contestés.
Ah bah oui, c'est la façon très insidieuse qu'ils ont de vouloir faire la promotion de leur campagne. Au début, et ils mélangent un petit peu tout cela, au début ils disaient, bah finalement, tout ce qui provient d'Israël doit être boycotté. C'est-à-dire c'est la négation même de l'État d'Israël, un État qui a été reconnu par l'ONU. Mais là, on en vient même à dire, bah finalement, ce sont les produits ou la culture israélienne ou les événements sportifs qui proviennent de ce qui vient uniquement des territoires. Et on essaie d'un petit peu de jouer sur les mots alors que ça n'a aucun fondement juridique, aucun fondement moral non plus, c'est contre la loi française puisqu'il s'agit d'une discrimination, c'est contre l'éthique et ça va d'ailleurs à l'encontre de la paix puisque ce n'est pas fait pour rapprocher Israéliens et Palestiniens.
Alors on reprend les choses. Au départ donc, sur sa version limitée, il s'agit d'empêcher ces produits qui proviennent de ces territoires contestés d'arriver au grand public. Et puis ensuite, on étend finalement cette demande de boycott en gros à tous les produits qui viennent d'Israël. À tout ce qui vient d'Israël, qui n'est même pas des produits matériels, mais à toutes les productions intellectuelles, culturelles, artistiques et autres qui proviennent d'Israël. Et puis si j'ai bien compris, il y a également dans les protocoles de création du BDS, il y a également une exigence du droit au retour, n'est-ce pas ?
Oui, alors ce droit au retour est quelque chose d'assez, je dirais, cynique. On va demander aux descendants de plusieurs générations de personnes qui sont parties dans les conditions qu'on connaît. Il y a eu toute une campagne, disons, ils ont été chassés, ce qui n'est pas véritablement vrai. Peut-être que ça a été le cas puisqu'il s'agissait d'une guerre à l'époque en 1948, mais pas à 100%. Et on va demander à tous ces gens-là de revenir, ce qui est non seulement numériquement impossible, mais également légalement, juridiquement impossible.
Alors, c'est peut-être l'occasion de rappeler aux auditeurs qu'il y a une définition de réfugiés palestiniens qui est tout à fait exceptionnelle, qui ne compte que pour les réfugiés palestiniens, suivant laquelle les réfugiés palestiniens ne sont pas seulement ceux qui ont quitté le territoire qui est actuellement Israël, à l'intérieur de la ligne verte après la guerre de 1948, et ceux-là, des survivants, il doit y en avoir à peu près 15 000, pas plus, mais ce sont aussi leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs arrière-petits-enfants, les arrière-arrière-petits-enfants, etc., etc. Aujourd'hui, on en compte 5 ou 6 millions, et c'est-à-dire faire revenir 5 ou 6 millions de personnes et dire que l'on veut que ces gens s'installent dans ce territoire qui est aujourd'hui Israël, c'est vouloir la destruction de l'État d'Israël.
Mais, alors non seulement c'est vouloir la destruction de l'État d'Israël, mais c'est faux juridiquement. On ne va pas d'ailleurs demander aux Juifs qui ont été chassés des États arabes en 1948 de revenir, ça c'est absolument pas proposé. Et d'ailleurs, rien n'est fait pour insérer dans les pays où ils sont actuellement les descendants, quelle que soit leur génération, des personnes qui sont parties à l'époque.
Alors ceci, c'est toute l'histoire des réfugiés, effectivement, dont on peut parler et qui mériterait une séance tout à fait particulière. Mais tout cela pour dire que ce retour, finalement, n'a jamais été proposé aux millions de Juifs, en gros, qui ont dû quitter les territoires musulmans dans lesquels ils se trouvaient. Il n'a pas été proposé non plus aux dizaines de millions de réfugiés, que ce soit les quinzaines de millions de réfugiés de l'après-guerre en Europe, les réfugiés après les diverses guerres, notamment un des Pakistans, etc., etc.
Bien sûr. Donc il y a des
dizaines de millions de réfugiés dans le monde, mais ces réfugiés-là ont une situation qui est tout à fait particulière, et on est réfugié de père en fils, avec en plus de ça les problèmes de non-intégration que nous connaissons et sur lesquels on ne va pas revenir. Mais c'est ça aussi qui est à l'intérieur de la politique des groupes de BDS. Celui qui a créé le BDS, c'était, n'est-ce pas, Omar Barghouti, qui n'a rien à voir avec Marwan Barghouti, et qui est un homme qui, je crois, a étudié lui-même à l'université de Tel Aviv.
Exact. Alors, ce n'est pas lui qui l'a créé, mais c'est un petit peu le représentant légal de cette campagne. En fait, la campagne BDS a été créée notamment par l'autorité palestinienne, par des organisations civiles des territoires palestiniens, et Omar Barghouti est celui qui a créé sa charte. C'est une personne qui, lui, revendique le fait qu'il n'y ait qu'un seul État sur ce territoire qui soit un État palestinien avec une minorité, je dirais, acceptable pour les Juifs.
Et on sait ce qu'il en est des minorités dans ces pays du Moyen-Orient.
Bien sûr, c'est quelqu'un qui refuse toute discussion entre Israéliens et Palestiniens. C'est quelqu'un qui dit qu'il faut de toute façon faire des exemples et qu'il y aura de toute façon avec cette campagne de boycott des victimes collatérales qui seront des Palestiniens. On sait très bien que, par exemple, bon nombre de Palestiniens refusent ce problème de boycott parce qu'ils vivent en bonne intelligence avec les Israéliens, ils travaillent ensemble, ils sont là uniquement que pour avoir une élévation de l'économie comme tout un chacun, hein. N'importe qui travaille pour élever ses enfants, pour avoir une meilleure éducation, pour avoir une meilleure économie, et c'est ce qu'importe à toutes les personnes, sauf les représentants du boycott.
Je crois d'ailleurs que Omar Barghouti a écrit dans un de ses textes, je ne sais pas si c'était uniquement en arabe ou en anglais également, que en fait le BDS, le mouvement de boycott, n'était finalement qu'une première étape pour détruire l'entité, l'État d'Israël.
Exactement, exactement. C'est la face officielle, mais derrière, la volonté, c'est effectivement qu'il n'y ait uniquement qu'un territoire palestinien du nord au sud et du Jourdain à la mer.
Voilà, donc tout cela, je pense qu'il faut bien en être conscient. Et l'un des prétextes que donnent les partisans du BDS, c'est nous sommes en train de lutter contre l'apartheid en Israël. Est-ce que vous pouvez nous dire de ce que c'est que l'apartheid, entre guillemets, en Israël?
Alors, moi,
et ils rajoutent en général, c'est la même campagne que nous avons menée contre l'Afrique du Sud et qui aboutit ensuite à la disparition de l'Afrique du Sud raciste pour un pays, pour une démocratie comme elle est devenue.
Mais ce n'est absolument pas le même cas. On ne peut absolument pas comparer Israël, qui est un État démocratique, avec notamment trois partis qui viennent des minorités arabes qui sont représentées à la Knesset. Il y a des ministres qui viennent de minorités comme les Druzes. Il y a des militaires qui sont Druzes, dont un général. Il y a un juge de la Cour suprême, celui qui a condamné Moshe Katsav, l'ancien président de l'État d'Israël, qui est un arabe israélien. Pensez-vous franchement qu'on aurait accepté sa décision, sachant qu'il s'agit d'un juge de la minorité arabe en Israël? Non, sa décision a été respectée parce que c'est un juge, c'est un homme qui est respectable et respecté, et ce n'est pas dans un État apartheid qu'on pourrait avoir cela.
Et il y a un certain nombre de, je crois, de reines de beauté et de Miss Israël qui sont arabes, et de très très nombreux, pour moi qui suis médecin, de très nombreux chefs de service hospitaliers et dans des hôpitaux les plus prestigieux du pays font partie de la minorité arabe. Donc c'est pas tout à fait c'est pas tout à fait un pays d'apartheid. L'autre raison qui est donnée pour pousser ce mouvement, c'est de dire finalement on est dans un cadre, on a le droit de s'exprimer, on a le droit de faire ce qu'on veut, on a le droit de choisir d'acheter chez un tel, de ne pas acheter chez un autre, ça fait partie de notre liberté d'expression. Que dit la loi à ce sujet?
Non, alors en fait, le principe en France, qui est un État démocratique, c'est la liberté d'expression. Effectivement, on a le droit de, je dirais, presque tout dire et presque tout faire. Mais il y a des exceptions. On n'a pas le droit d'être raciste, on n'a pas le droit d'être antisémite, on n'a pas le droit de faire de la discrimination parce qu'on a un handicap, on a une certaine couleur de peau ou une certaine religion. Et on n'a pas le droit non plus d'appeler au boycott, ce qui s'appelle un appel à la discrimination, ou de faire des actions de boycott. Vous avez le droit vous-même de ne pas aimer tel ou tel produit ou telle musique parce que ça ne correspond pas à vos idées politiques ou autres. C'est très bien, vous avez le droit de critiquer le gouvernement israélien comme n'importe quel gouvernement de n'importe quel pays, mais on n'a pas le droit, c'est ce que dit la loi, d'appeler au boycott, c'est-à-dire à la discrimination, à raison de l'appartenance réelle ou supposée à une nation, ni d'ailleurs de faire une action discriminatoire également, ce sont les articles du code pénal qui le prévoient.
Ok. Et est-ce que la France est le seul pays qui a cette définition de cette loi contre le boycott, ou est-ce que d'autres pays ont le même type de définition?
Alors, la France est le pays le plus abouti, je dirais, en termes de loi. Nos deux lois, c'est-à-dire l'article 24 alinéa 7 de la loi sur la presse pour la provocation, c'est-à-dire l'appel à la discrimination, et l'article 225-1 du code pénal sur l'action de boycott elle-même, oui, la France est le seul pays à l'avoir. Après, dans d'autres pays européens, il y a des législations plus ou moins similaires, mais beaucoup moins efficaces. Je dois dire d'ailleurs que la Cour de cassation en France, qui est la juridiction suprême en France, s'est prononcée à de multiples reprises pour confirmer qu'effectivement le boycott de produits israéliens est illégal et l'appel au boycott est également illégal. Et également, la Cour européenne des droits de l'homme, le 16 juillet 2009, s'est prononcé également là-dessus, en précisant d'ailleurs que seul un gouvernement peut imposer un boycott. C'était le cas en Afrique du Sud également, puisqu'il s'agissait d'une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU qui avait demandé à tous les États d'imposer un boycott. Donc on n'a pas le droit, à titre privé, de débarquer par exemple dans un supermarché pour appeler au boycott, pour inciter à la haine. Il s'agit d'une incitation à la haine, et on en connaît les conséquences, notamment antisémites, puisqu'il y a plusieurs exemples de manifestations antisémites liées à la campagne de boycott BDS.
Oui. Et pour être complète, une campagne de boycott devrait entraîner la fin de l'achat de la plupart des produits électroniques dont raffolent souvent les partisans du BDS, puisque dans ces produits, il y a quasiment forcément un certain nombre de composants qui sont d'origine israélienne dans tous les téléphones portables ou dans tous les produits informatiques.
Ah ben non seulement ça, mais également d'un point de vue médical, dans les scanners, dans les vêtements, il peut y avoir des fibres qui ont été inventées en Israël ou en lien avec une start-up israélienne. Donc effectivement, ça n'a aucun sens.
Quels sont les derniers événements qui ont eu lieu dans cette affaire de boycott ?
Alors, en ce moment, les affaires de boycott, je dirais, sont toujours similaires. On en veut à la culture israélienne, on en veut à des événements sportifs. Lorsqu'une équipe sportive israélienne vient faire un match en France, on essaie de le boycotter. Le Festival international de musique, le Festival israélien de musique, est souvent l'objet d'une campagne de boycott. Et effectivement, cela est très déplorable et doit être condamné sévèrement, non seulement par des mots, mais également par des actes, par le gouvernement français.
Bien, mais écoutez, il est de fait que sur le plan économique, le boycott n'a pas véritablement impacté l'économie israélienne. Sur le plan psychologique, c'est différent. Et sur le plan cette terminologie particulière, cette déviation, cette distorsion des mots, ces remarques sur l'apartheid, tout cela a fait du mal. Et je crois que vous serez d'accord pour dire que le mouvement BDS, au fond, est un mouvement qui fricote énormément avec une forme d'antisionisme que l'on peut véritablement appeler de l'antisémitisme.
Ah, mais c'est véritablement de l'antisémitisme. Tous les gouvernements, d'ailleurs, le disent depuis un certain temps, ils le reconnaissent. L'antisionisme, c'est le nouvel antisémitisme, effectivement. Quand Alain Finkielkraut se fait traiter de sale sioniste, en réalité, il se fait traiter de sale juif, mais on sait très bien que sale juif, c'est une condamnation immédiate. Sale sioniste, peut-être un petit peu moins. Mais effectivement, la campagne BDS, pour moi, est une campagne antisémite, il faut bien le dire, et on a plusieurs exemples pour cela.
Voilà, nous reviendrons une autre fois sur les problèmes de l'antisémitisme, les définitions, et c'est un sujet dont on parle beaucoup actuellement. Je vous remercie, Pascal Markovitch.
Merci, Richard Pasquier.